Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur un événement ou une problématique qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode dédié aux réserves citoyennes. Pour traiter de ce sujet, nous avons aujourd'hui Éric Fraissinet.
Bonsoir.
Guillaume Prigent.
Bonsoir.
Jérôme Notin.
Bonsoir.
Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc, Nicolas, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ce que sont les réserves citoyennes ?
Ah mais pas du tout, j'ai rien compris. Entre la réserve, la RCC et la RCO, donc la réserve cyber citoyenne et la réserve cyber opérationnelle, je t'avoue que j'ai pas bien compris quelle est la différence et à quoi ça va servir. Mais heureusement, on a des réservistes parmi nous.
Quelqu'un pourrait éclairer Nicolas ?
Alors, oui, déjà, c'est la RCC, donc Réserve Citoyenne Cyberdéfense, et c'est pas l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose qui est créé, qui existe depuis un petit peu plus de 2 ans. Et donc la Réserve Cyberdéfense Opérationnelle, qui, elle, va être mise en place dans les mois qui viennent, et qui ont été annoncées, enfin, ou pour laquelle il y a eu des annonces récentes au FIC de cette année. Sachant que la Réserve Citoyenne Cyberdéfense a pour vocation principalement de faire de la sensibilisation, alors que la réserve opérationnelle, comme son nom l'indique, est vraiment là pour faire de l'opérationnel, c'est-à-dire aller... L'idée de départ principale, c'est de dire il y a un gros problème informatique et on va avoir de la masse de gens qui va pouvoir intervenir dans différentes entités pour régler les problèmes, éventuellement reconstruire les systèmes d'information.
Alors, qui fait partie ou peut faire partie de ces réserves ?
Alors sur la réserve citoyenne, ce sont des candidats qui ont une sensibilité à la cyberdéfense au sens large. Il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des experts de cyber. On pourra discuter du mot cyber plus tard hein, si vous voulez. Mais... et puis donc sur la réserve opérationnelle, le choix que je considère extrêmement intelligent qui a été fait, c'est de proposer à des étudiants qui sont donc en cours de formation dans des cursus informatiques de pouvoir participer à cette réserve, puisque l'idée était de dire si jamais il y a un vrai problème informatique, les vrais experts, entre guillemets, enfin ceux qui détiennent la connaissance avec un grand C, vont être très occupés dans les entités auxquelles ils appartiennent d'un point de vue professionnel, et donc ne seront pas disponibles pour servir l'État, puisque la réserve, c'est le ministère de la Défense qui sert l'État.
Sur le site, il parle de contacter l'État-major, de postuler. Mais en fait, en fonction de ta zone de défense, où, chez nous, par exemple, en Bretagne, c'est géré au niveau de l'ETRS, sur Rennes, là. Et on se présente par un mail, et puis après, c'est CV, lettre de motivation, mais ça va assez... Bon, j'ai pas eu le temps d'envoyer mon CV encore parce que.
Les casiers B, hein.
Mais voilà, il y a pas de. Enfin, à ma connaissance, il y a pas de.
Non.
C'est un club fermé, quoi.
C'est fermé dans le sens où aujourd'hui, il y a plus de recrutements qui sont prévus. Le niveau maximal est atteint puisqu'on doit être à peu près 160. Après, il y a des gens qui participent aux différents groupes de travail, on pourra parler de l'organisation de l'RCC, qui sont des membres sans être actifs, entre guillemets, au sens de la réserve citoyenne, puisque quelqu'un de l'RCC choisit son arme et dispose d'un grade qui, c'est entre guillemets honorifique, hein. D'ailleurs, c'est ad honores pour les gens qui ont je sais pas si c'est pas un pins, mais je sais pas Eric comment on peut appeler le
une épinglette en français
une épinglette voilà
pins. Alors Jérôme, je suis un peu étonné hein, parce que si le but c'est de faire de la sensibilisation, c'est bien
oui,
ça hein.
Tout à fait.
Il me semble que la sensibilisation c'est quand même l'une des problématiques majeures dans le domaine cyber actuellement. Et 160 personnes, ça me semble pas beaucoup.
Mais c'est qu'on travaille beaucoup. Non, attention.
Il y a une autre problématique, juste pour l'expliquer, parce que moi, je gère un peu de l'autre côté pour un certain nombre de réservistes cyber-gendarmerie. L'idée, c'est qu'il faut aussi les gérer avec des opérationnels de l'autre côté. Il faut qu'il y ait une activité, il faut qu'il y ait des gens en contact. Donc on n'est pas non plus de l'autre côté, plusieurs centaines, à pouvoir... gérer ses relations, faire vivre ce réseau. L'idée de cette réserve citoyenne cyberdéfense, c'est pas d'avoir partout des petites mains qui font de la prévention, mais c'est de mobiliser dans le cadre du lien armée-nation, hein, c'est le terme officiel, un certain nombre d'acteurs qui vont pouvoir être des relais et qui vont permettre, par exemple, de créer des projets de sensibilisation qui pourront être repris par d'autres. Hein. La réserve citoyenne cyber n'a pas l'exclusivité de la sensibilisation dans ces questions-là.
C'est exactement ce que j'allais dire, tu le formules mieux que j'aurais pu le faire, mais ce n'est entre guillemets qu'une initiative du ministère de la Défense, sans le terme réducteur. Le MINDEF a vocation justement à protéger l'État français au sens très large, et donc on connaît les problématiques de la cyber, telles qu'elles sont aujourd'hui et telles qu'elles peuvent être anticipées demain, et donc le ministère de la Défense a pris l'initiative de créer cette réserve citoyenne pour justement, comme le disait Eric, faire le lien entre l'État-nation et le ministère. Maintenant, il y a d'autres entités qui font de la sensibilisation. La police fait de la sensibilisation dans les collèges, les lycées, la gendarmerie fait la même chose. Et donc après, il faut essayer de faire que tout le monde travaille ensemble et aille dans le même sens. Mais c'est pas la sensibilisation de la population n'est en aucun cas exclusivement réservé au ministère de la Défense, évidemment.
Il y a une cohérence entre tous les programmes, enfin.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors c'est ministère de la Défense et gendarmerie hein, pour cette réserve citoyenne cyber. Et d'ailleurs, c'était un projet qui était né à partir de la réserve citoyenne de la gendarmerie, qui était une initiative qu'on avait lancée au départ, qui est plus large. Hein, le nombre de réservistes citoyens, il est de l'ordre de 3500, je crois. Et c'est certains parmi ceux-là qui contribuent à cet élan cyber.
Après, sur l'organisation pratique de la réserve, donc aujourd'hui, il y a 8 groupes de travail, chacun ayant une thématique un petit peu particulière. Moi, je participe à 2 groupes aujourd'hui, donc le groupe jeune, qui avait vocation au départ à sensibiliser les jeunes, justement. On a un petit peu dérivé et puis on a donc travaillé sur la création d'un jeu. Et puis un groupe un petit peu transverse, et ça je pense que c'est aussi une bonne initiative, qui a pour vocation de un petit peu récupérer tout ce qui peut se faire en région, puisque la réserve s'est pas mal développée en région les mois derniers. Donc tout ce qui est un petit peu élément de langage, support de présentation pour homogénéiser tout ça et puis avoir un discours un petit peu commun.
Tu parlais d'un jeu, c'est un serious game ?
C'est un jeu de plateau, on a vraiment fait justement de l'école ancienne pour essayer de maximiser la cible, où en fait c'est un jeu de stratégie, on a vraiment pas mal passé de temps là-dessus. Et pour toujours pareil, l'action de sensibilisation, aujourd'hui on est arrivé à quelque chose qui est assez sympa en termes de jeu pratique, où on parle de termes un petit peu phishing, APT, hameçonnage, ce genre de choses.
Donc il y aura des updates avec les nouveaux termes ou les nouveaux enjeux.
En fait, on a encore parlé tout à l'heure, parce que moi j'étais à une réunion justement sur mon temps personnel, on va mettre en place sur le site web, puisqu'il y aura un petit site web, des nouvelles cartes événements. Dans le principe du jeu, il y a les cartes événements que tu pioches à un moment dans la partie, et donc qui sont qui peuvent être liées à l'actualité justement, et de permettre sur des licences Creative Commons sur le site web ce genre de choses a un intérêt non négligeable, puisqu'il suffira de les imprimer, de les rajouter dans le jeu, et donc tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on n'a pas décidé de la fréquence, mais de pouvoir rajouter des cartes qui soient très liées à l'actualité, ça permettra effectivement de participer à la portée de ce message de sensibilisation.
C'est sur le principe de Cards Against Humanity, ou c'est un peu plus constructif?
Je ne connais pas ton truc, Nicolas, donc je ne peux pas dire.
Magic the Gathering?
Non, Cards Against Humanity, c'est le jeu qui cartonne aux US parce que c'est complètement politiquement incorrect. C'est un jeu de cartes où tu dois être le plus horrible possible.
Tu imagines bien que le ministère de la Défense ne va pas faire un jeu incorrect.
Mais je crois que le ministère de la Défense n'a pas d'argent pour sortir son jeu non plus.
Mais c'est pas la question.
Enfin, je veux dire, le jeu n'a jamais pu... Il existe une version boîte qu'on peut acheter ou
c'est encore... C'est en cours de fabrication. Alors, si tu veux la démarche, je pense que je peux en parler puisqu'elle est elle est publique, il va y avoir un appel à partenariat. Donc, celui qui veut participe, évidemment, personne n'est obligé. On parle d'entreprise, on ne parle pas de particulier hein, dans ce cas-là. On a contacté un éditeur avec qui nous a donné un budget. C'est un peu le principe du compte d'auteur. Hein. Donc, on a un budget qui est de 100 et on va proposer trois niveaux de partenariat à des entités en disant, voilà, vous êtes tel niveau, vous avez tant de boîtes qui font partie du packaging, sachant que évidemment le ministère, évidemment la réserve, évidemment l'éditeur ne fait pas d'argent là-dessus. L'éditeur fait du comptant en fait. Hein, il fait une prestation de fabrication et d'édition du jeu. Mais lui, il fait peut-être une petite marge, mais c'est pas voilà. Je connais les montants et c'est pas démesuré. Hein. Donc on va faire éditer 3000 boîtes, voilà, a priori, on est parti sur ce volume-là, et on va dire, toi, telle entité nous donne tant d'argent, et donc a droit à tant de boîtes qui vont, puisque l'objectif est d'éditer le jeu avant la fin d'année, qui vont potentiellement, par exemple, pouvoir servir à des jeux en interne, éventuellement à des cas de clients, ce genre de choses.
Ce serait pas mal qu'elles sortent pour le mois de la cybersécurité en octobre.
Les délais sont un petit peu courts parce qu'il y a la création d'une association qui va être là pour collecter l'argent. Après, il y a tout le travail avec l'éditeur, il y a le travail d'impression. C'est notre objectif est plutôt vraiment décembre.
Ça, c'est pour la partie R2C ou RC2, je ne sais pas comment on dit.
RCC, tout simplement. RCC. Ne réinvente pas des choses pour compliquer, Nicolas.
Arc Square, comme on dirait en anglais. Mais est-ce qu'on parlerait pas de la réserve opérationnelle aussi ?
Bah, tu as l'air d'en savoir pas mal, donc vas-y.
Ah, pas du tout, justement. Moi, j'ai regardé les vidéos en ligne, paroles de réservistes, etc. Mais déjà, est-ce que ça existe aujourd'hui, la RCO, ou est-ce que c'est la prochaine étape qui est en train de se monter ?
C'est ce qui est en train de se monter, puisque y a une problématique, comme le disait Eric tout à l'heure, les gens vont être payés, et à partir du moment où tu payes des gens, autant c'est facile quand il n'y a pas de notion d'argent, c'est du bénévolat, comme les RCC. Je pense qu'il est beaucoup plus compliqué pour la réserve citoyenne opérationnelle de se mettre en place parce que derrière, il va falloir payer et financer les effectifs. Donc,
Alors, juste, juste sur ce point-là, la réserve opérationnelle en tant que telle, comme la réserve citoyenne, existe déjà. Donc, il y a des textes juridiques et il y a des budgets. Et c'est des budgets qui peuvent être éventuellement abondés en fonction des besoins hein, en gendarmerie. On a quelques dizaines de milliers de réservistes opérationnels qui sont à nos côtés sur le terrain. Hein. Par exemple, sur le Tour de France, il y a des réservistes qui viennent en renfort. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire techniquement. Donc, il n'y a rien à inventer en pratique. En revanche, il faut allouer un budget à ce projet-là. Donc, je suppose que pour l'amiral Coustillère, il va falloir qu'il le défende précisément ou qu'il le sorte de ses ressources et puis qu'il définisse précisément ce qu'il veut faire la première année, la deuxième année. Donc il y a un petit peu de travail de planification. Et puis il y a un vrai enjeu de formation. Il va falloir des gens pour former ces personnes à qui seront mises en œuvre pour être prêts en cas d'incident à gérer. Donc il y a voilà, mais sur le plan concret, c'est effectivement une logique de détermination de budget pour
ce projet-là. Sachant qu'à mon avis, il y a une difficulté supplémentaire, puisque la RCC, par exemple, est la première réserve citoyenne, effectivement, comme tu le disais, la réserve citoyenne existe depuis longtemps, mais qui est transverse. C'est-à-dire que chacun, entre guillemets, est affecté ou a choisi une arme, et que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie, ou la marine,
ça recrute. Je n'ai pas énormément de choses à dire, mais moi je trouve qu'il y a potentiellement un problème quand même par rapport à ce que tu disais en disant on sait déjà faire la réserve opérationnelle. Il y a une question d'origine, c'est-à-dire que, pour être un peu dans le milieu aussi, les gens qui font la réserve opérationnelle, donc la réserve classique, ils ont tous, à ma connaissance, ça va peut-être changer, mais passer par une période verte ou à un moment donné par les drapeaux, les armes ou quelque chose.
Plus maintenant. Bon.
Ah, peut-être plus maintenant. Bon, voilà,
alors, le service militaire a fini il y a quelques années maintenant.
Oui, c'est vrai.
Donc on recrute directement.
Voilà, d'accord. Voilà, parce que je me disais, voilà, légalement, c'est encadré, effectivement, on sait rémunérer ou gratifier dans des périodes. Bon, tout ça, c'est ancien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je voyais le problème sur, bon, bah oui, mais qui? Ils viennent d'où?
Qui? C'est des élèves de l'EPITA, hein, d'après mes informations.
Mais donc, non, parce que. Mais donc, les armées sont partout en France, ça peut être plein d'écoles. Hein. Et y a pas en Bretagne d'ailleurs, en particulier.
Il n'y a pas des écoles partout en France.
Donc, il y a surtout des écoles de formation. Il y a des formations en sécurité partout en France.
Bien sûr, ouais. Mais donc, du coup, il y aurait potentiellement, enfin, j'anticipe peut-être un peu, parce que, et puis, on n'est pas obligé d'être dans les secrets des petits papiers, mais il y aurait une période un peu de. D'usinage ou de formation un peu à cette, ce poste de réserve opérationnelle cyber.
Oui, en fait, de ce que j'en sais, hein, et je pense que c'est encore des choses qui sont en train d'être définies, mais il y aurait, comme tu dis, une période d'usinage, de formation à pourquoi on fait ça. Alors, c'est peut-être passé sur des semaines, hein, évidemment.
Quelle hiérarchie, quelle décision
Quel est votre rôle, à quoi vous allez servir. Et puis, après, je vais être peut-être méchant, mais de dire comment appliquer les procédures. Et le plus gros du travail dans ce cadre-là, ça va être d'appliquer les procédures. Parce que, on envisage, et on ne va pas faire du fun aujourd'hui, mais quand même, le cas de déclencher la réserve opérationnelle, c'est qu'il y a une grosse pétouille en France.
Oui, mais alors, attends, moi, il y a un truc qui m'épate quand même. C'est-à-dire que la réserve cyber opérationnelle, elle va être destinée à être capable de mobiliser en temps de, entre guillemets, crise, mais on reste à définir ce que c'est une crise, parce que il y a un peu l'incendie, il faut des pompiers, voilà. Mais est-ce que aujourd'hui, sans la réserve cyber opérationnelle, on sait déjà s'organiser sur une crise?
Mais tu sais évidemment que non, évidemment.
Ok. Ouais, bah, c'est pas gagné quand même.
Pardon, je vois pas comment on peut écrire des procédures qui vont fonctionner, face à des crises inconnues. Demain, je sais pas, t'as un DDoS massif contre plein d'institutions françaises. C'est quoi la procédure? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes réservistes?
Alors justement, est-ce que ça existe déjà dans d'autres pays?
Eh oui, aux États-Unis, ça existe aussi.
D'accord.
T'as des gens, c'est en ça où là encore les Américains sont plus forts que nous, où t'as des gens d'IBM qui vont passer des week-ends au ministère de la Défense et ils échangent, parce qu'au final, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est les échanges entre le ministère de la Défense local et puis les citoyens ou le monde de l'entreprise, et les gens se connaissent et en échangeant, on augmente le niveau de connaissance et voilà.
Ouais, tu sais, il y a un truc extrêmement intéressant qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'ils ont fait un CTF, un exercice militaire contre consultant en sécurité informatique, et les militaires se sont fait poutrer. Donc, effectivement, je vois pas trop comment ça peut fonctionner, ce truc, parce que on envisage un peu la cyberguerre comme une guerre où il y a des généraux qui donnent des ordres, et puis des... Et c'est la masse. Je veux dire, le petit jeune qui sort d'école... parce que finalement, ça va être ça. Ou qui sera encore à l'école et qui maîtrise parfaitement le reverse, qui voit exactement d'où viennent les attaques, comment ça marche, et qui va se retrouver en face d'une vieille barbe qui va lui dire tiens, voilà la procédure à dérouler. Il va peut-être un petit peu halluciner, quoi. Autant c'est facile pour un jeune qui a 18 ans de tenir un fusil et de tirer partout s'il est bien entraîné, autant j'anticipe un peu un culture clash là.
Mais non, justement, c'est exactement la même idée pour moi, si tu veux. C'est que le jeune, il va pas tenir un fusil, il va tenir un clavier, et puis il va dire on fait un apt get update, quoi. C'est voilà, ni plus ni moins.
Non, le jeune, il va dire mais non, faut pas faire un apt parce que telle et telle raison, et il aura peut-être raison d'ailleurs, et il va quand même être obligé de dérouler la procédure.
Non, parce que et là c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'anticipe, si tu veux, le méga clash qui sera que des petits cons qui font du défacement de site parce qu'il y a des failles, parce que les serveurs sont pas mis à jour tant au niveau du serveur que de l'applicatif, quoi. Donc, ce n'est que ça pour moi, si tu veux, dans l'idée. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la masse qui va permettre de faire qu'on va réduire l'impact d'une attaque massive, parce que c'est quand même l'idée derrière, d'une attaque massive en France sur nos systèmes d'information.
Oui, c'est un des scénarios, mais on peut en explorer d'autres. Et puis, juste pour reprendre le modèle de la réserve opérationnelle classique, petit à petit, on forme des cadres aussi dans cette réserve opérationnelle. Certains sont des anciens des armées ou des anciens de la fonction publique ou qui ont déjà une ancienneté dans certains métiers. et donc à qui on demande d'encadrer des équipes, alors sur le terrain. Et là, on peut imaginer la même chose dans le cadre d'opérations de cyberdéfense.
Et justement, on parlait de la sensibilisation, mais je reste convaincu que parce que la réserve opérationnelle est opérationnelle, il y aura des exercices, et qu'il y aura des exercices en conditions réelles, et que ces gens-là vont aller dans des mairies, dans des conseils généraux, dans des hôpitaux, dans des entreprises privées éventuellement un petit peu sensibles, et vont expliquer que voilà, il y a les mesures de sécurité qui sont les règles d'hygiène de base, les gens que vous connaissez, et qui ne sont pas appliqués aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que ces choses-là vont permettre d'élever le niveau de sécurité global de la France. Et pour moi, rien que ça, c'était extrêmement important.
Et donc, toi, ton plan, c'est d'envoyer un étudiant de l'EPITA avec une procédure dans une mairie de 50 habitants où l'agriculteur du coin s'est fait défacer son site web pour qu'il le sensibilise ?
Bien sûr. Ben oui, c'est la masse, Nicolas. Mais vraiment, tu
ne participes pas à un culture clash, là ? Tu penses que l'étudiant, après, il va avoir envie de s'engager
Il sera déjà engagé. Il sera déjà engagé.
En fait, ce que je veux dire, c'est que Eric avait l'air de dire que c'était une forme de formation des cadres et de sensibilisation au métier pour après éventuellement recruter et créer des vocations. J'ai peur que ça en dégoûte quelques-uns.
On n'est pas dans le même monde, hein, Nicolas, mais c'est pas grave. Mais je revendique le fait, si tu veux, de dire qu'il y a des gens qui, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un problème, quand tu as une information et que tu te rends compte que les gens en face de toi n'ont pas l'information, soit tu baisses les bras et tu démissionnes, ok, soit tu te dis, je vais essayer de former les gens et d'essayer de leur donner de l'information pour qu'ils...
Il y a une autre voie quand même, tu peux faire des podcasts non limite sécu et dire que la sensibilisation est un échec.
Ah, ça, tu peux toujours le dire, hein. Mais on a tous fait du support informatique pour sa famille. Rigolo au début, mais quand il retombe 50 fois dans le même phishing, la même merde, le pas de sauvegarde, le disque dur qui a craché, etc. Au bout d'un moment...
Toi, tu baisses les bras, moi, je suis pas d'accord.
Peux avoir 1000 étudiants qui vont sensibiliser une mairie une fois, mais tu peux pas avoir un étudiant qui va sensibiliser 1000 mairies. Ça,
on la connaît, les 1000 fois.
Il faut que tu changes de membre de famille, Nicolas.
Non, ça va. Moi, j'ai réussi à les faire migrer sur les technologies modernes et fiables. Mais...
Il y a plein de, il y a plein d'options possibles avec cette réserve opérationnelle. Et Jérôme a raison de le souligner. S'appuyer sur la motivation qui existe réellement chez une partie de la population, des gens qui ont envie de contribuer à faire progresser concrètement dans ce cas-là la cybersécurité du pays, montrer qu'ils sont disponibles pour aider à ces moments-là à s'y entraîner, ça nous permet d'être un peu plus près pour un vrai incident majeur. Et je suis convaincu que si on a fait ça et beaucoup d'autres choses, mais ça c'est une brique importante, on sera plus et mieux préparé pour gérer un vrai incident important, et faut pas se leurrer, on aura à gérer dans les 20 ou 30 prochaines années ou plusieurs gros incidents auxquels il faudra faire face, et on sera bien content de pas être tout seul face aux difficultés, hein. Voilà.
Moi je suis pas de cet avis, mais je pense que vous l'avez compris. Parce que
Et on rappellera les Français exilés en Suisse pour venir nous aider, et je suis sûr que tu viendras en plus.
Mais je viendrai. Je pense que quelques professionnels compétents et
aguerris
auront plus d'impact qu'une masse.
Mais c'est pas la même chose.
Mais non.
C'est pas la même chose. Si tu le reportes sur ce qu'on fait classiquement dans les métiers militaires, la réserve opérationnelle, par exemple, faire la sécurité sur les routes, c'est un truc qui, tu vas dire, il faut que ce soit fait par des professionnels. Et ben, on prend des gens, on prend des jeunes, on leur apprend. Ils pratiquent, ils sont encadrés et ça fait des équipes efficaces qui permettent d'améliorer la sécurité sur les routes, par exemple pendant les grands événements. Là, c'est un peu la même chose on se forme à tout, et en plus là, tu prends des gens qui quand même se forment en informatique, par exemple. C'est a priori pas des bonnets en informatique, ou alors faut changer les modes de recrutement et de formation dans les écoles. C'est un autre sujet.
On pourra faire un épisode sur la formation, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais tu vois, il y a eu un cas intéressant avec un CTF en Corée du Sud, où les CTF en Corée du Sud, c'est quand même...
On le fera après l'épisode.
Oui, on garde les CTF pour plus tard, mais Je sais plus quelle était la dotation, mais enfin, c'est entre 20 000 et 50 000 dollars, tu vois. Donc, les gens qui y vont, ils y vont pas pour rigoler. Eh ben, il y avait plein d'équipes de Coréens. Geohot, il y allait tout seul. Il a terminé premier. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse réduire l'informatique en disant plus on a de monde et plus on est fort.
Comment, Nicolas ?
C'est une composante.
T'es en train de comparer les gens qui font le trafic routier pendant le Tour de France et qui se mettent au carrefour pour empêcher les voitures de passer.
Il y a une partie de l'informatique qui est un peu de ça.
Mais évidemment, c'est la même.
Mais non, mais ça c'est.
Mais comment, comment tu mets à jour tous les sites, toutes les médias tech qui se sont fait poutrer là, début janvier ? Comment tu fais pour résoudre ce problème, entre guillemets, qui n'est qu'un problème. C'est pas de la cyberguerre, on est bien d'accord, c'est juste de la propagande. Mais comment tu fais pour résoudre ça?
J'ai une solution très très simple. Tu mets tout à la poubelle, tu fais un seul logiciel qui est géré de manière centralisée, tu fais un cloud, en quelque sorte. Un seul logiciel, donc
Qui s'appelle Blogger, non, c'est ça? Non.
Par exemple. Non, mais Blogger, même sans mot de passe fort, tu actives l'authentification à deux facteurs, tu risques rien et tu n'as aucun risque de te faire poutrer. Plutôt que de demander au mec du coin.
L'authentification à deux facteurs.
Pardon?
Comment tu expliques aux gens qu'il faut faire de l'authentification à deux facteurs?
Ah bah, tu leur expliques pas, tu bloques leur compte s'ils ne le font pas, puis c'est tout. Non, mais. Ou tu leur envoies gratuitement le facteur. Enfin, globalement, tu peux pas continuer à avoir des mecs dans leur cave qui développent des CMS en PHP parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui existe ailleurs et qui génèrent des trous. Là, tu es en train d'éponger l'océan à la petite cuillère.
Non, mais c'est pas du tout ça. Parce qu'on
plus de la vraie vie. Mais tu rigoles, tu parles de la vraie vie. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passera encore. Et c'est en ça où, justement, en fait, potentiellement, on pourrait être d'accord dans le sens où il y a des solutions, mais qui ne sont pas appliquées. Et donc, de porter un discours et d'essayer d'éduquer les gens fait partie de la réserve opérationnelle et ça peut ne faire qu'augmenter le niveau de sécurité d'infos dont je parlais tout à l'heure.
Moi, je pense que tu vas dégoûter des jeunes alors que les carrières, on a du mal à recruter en sécurité informatique et tu vas les dégoûter en leur confiant des tâches subalternes alors que finalement tu traites les causes, enfin tu traites les effets sans traiter les causes. La cause, c'est que toutes ces mairies font appel à des prestataires merdiques pour déployer des sites dont elles ne s'occupent pas.
Ça, je suis bien d'accord. Maintenant, tu crois qu'un mec de 22 ans, aller en mairie expliquer ce qu'est la sécurité informatique, tu vas le dégoûter? Je pense que non.
Et c'est pas si facile que ça. Hein. Expliquer à une quinzaine de gens qui travaillent, qui ont l'impression que tout fonctionne parce que quand ils arrivent le matin, ils appuient sur le bouton, ça marche, etc. Tant bien que mal, jusqu'au jour où ils ont un incident. Arriver à leur expliquer, à être pédagogique, c'est vraiment tout un enjeu. Hein. C'est pas si facile que ça.
Non. Ouais, je suis d'accord que les élèves que tu prends, ils viennent d'une école où les deuxièmes années font cours aux premières années, donc ils ont peut-être des talents, des dons pédagogiques.
T'as une obsession hein, pour une école, hein. Il n'y a pas que cette école en France.
Donc ça, c'est une question que je voulais te poser, parce que t'as l'air de dire il y a plein de formations sécu en France.
Mais oui, je vous ai un autre cas là-dessus, Nicolas.
Mais est-ce qu'il faut être dans une formation sécu pour rentrer dans la RCO?
Je ne perds pas.
Sécu ou informatique ou ça va dépendre un petit peu après justement des tâches qu'on veut faire derrière en fonction de cette planification qu'il faut monter, des exercices qu'on veut leur faire, etc.
Et qui s'enrôle dans la RCO, c'est l'école, c'est
individuel.
Il y a une estimation à peu près du volume de gens qui vont se porter. C'est pas public, il n'y a peut-être pas de doctrine, de tout ça, de projection dans le futur, mais c'est quoi? C'est 400, 500, 1000, 2000, 10 000
personnes? J'avais entendu quelques milliers.
D'accord, donc on attend quelques milliers de personnes volontaires, quoi, comme ça.
Ah, mais attends, tu leur mets des dispenses d'UV, des dispenses d'examen, tu auras des volontaires, il n'y a pas de problème.
Vous êtes vachement pessimiste, les gars. Hein.
Attends, on a tous été en école, tous les mecs au club de sport pour éviter d'avoir passé l'examen de physique quantique, c'est...
Et ben pourquoi pas, ça peut être aussi une motivation, mais après, du moment qu'on en tire quelque chose de positif, moi je pense que c'est bien. Pas toujours une raison, une motivation, etc., mais...
Est-ce qu'il y a un examen d'entrée? Enfin, est-ce que vous faites une sélection sur les gens, ou est-ce que vous partez du principe que vous arriverez à tous les former pour les mettre au niveau?
Moi, j'en ferai, mais je sais pas comment ça va être organisé en pratique pour ce cas-là.
C'est en création, Nicolas. Donc après, c'est le dépôt d'un dossier, hein, donc sur la réserve citoyenne, qui est moins impliquante, je pense, que la réserve opérationnelle. C'était vraiment une lettre de motivation, alors bon, relativement légère, mais plus le dépôt du dossier complet, qui sont des pièces administratives. Mais sur la réserve opérationnelle, je pense qu'il y aura peut-être des concours. Enfin, je ne sais pas.
C'est en création, donc...
Voilà, exactement.
C'est un peu comme le label France, quoi.
Non, ça, c'était fait. Ouais.
Autre sujet d'épisode.
Ils suivront en plus une formation vraisemblablement pour être intégrés dans la réserve opérationnelle comme de façon classique. Hein.
Voilà, tout à fait. Maintenant, Nicolas, c'est très itératif comme processus, donc n'hésite pas à proposer des choses et toute chose intéressante sera écoutée et prise en compte. Hein.
Oui, même si tu fais un post de blog pour critiquer, mais critiquer positivement, ça peut aider.
Non, mais moi j'attends juste qu'on m'explique un cas d'usage concret.
Il faudrait qu'il fasse un stage, le Nico, là.
Nicolas, je me trompe peut-être, mais le cas d'usage concret, c'est certainement la sensibilisation dans un premier temps.
Alors moi j'ai des cas d'usage, je vais t'en donner un. On a vécu plusieurs crises de ransomware et d'autres types de botnets, et il y en a encore là. Si j'avais 50 ou 100 bons hommes de la réserve opérationnelle qui soit capable d'aller aider les victimes à se dépatouiller en quelques dizaines de minutes du truc sur leur ordinateur, et ben ça permettrait de progresser beaucoup et en plus de collecter au passage des preuves qui nous seraient utiles. Parce que là on parle de milliers de victimes hein, en quelques semaines, et c'est des choses qu'on n'est pas capable nous d'absorber et de traiter.
Bien sûr. C'est le concept de la réserve opérationnelle. Je reparle encore une fois malheureusement des événements qui sont passés en janvier. Il y a des réservistes opérationnels qui sont allés sur le terrain pour renforcer les équipes du ministère de la Défense, enfin des militaires de carrière. Et voilà, c'est très exceptionnel. Si jamais un jour on fait appel aux réservistes opérationnels, c'est qu'il y aura vraiment un problème énorme. En attendant, ils participent à la relation. Ministère de la Défense Nation, il participe à la mission de sensibilisation. Enfin voilà, c'est.
Je pense que la transposition dans le monde informatique de métaphores du monde réel ne peut pas fonctionner sans de très très fortes adaptations. Et sur le cas des ransomware, de toute façon, tu sais bien que les ransomware modernes, tu peux rien faire à part payer. Le chiffrement est correct.
Allez, les cryptolockers. Oui, mais il faut au moins savoir le désinstaller, le truc. Aider la personne éventuellement à récupérer ses sauvegardes, ses shadow copies, etc. C'est pas un truc si simple que ça.
Et puis sensibiliser aussi derrière pour faire en sorte que ça n'arrive plus.
Exactement. Si tu as éduqué les gens en disant, voilà, il y a une solution, effectivement, vous êtes fait poutrer maintenant. Par contre, vous aviez fait des sauvegardes et vous avez déconnecté ou pour une manière logique ou physique, vous ne vous referez plus avoir. Et ben voilà, ça peut faire une partie des missions des gens qui sensibilisent et donc potentiellement de la réserve opérationnelle aussi. Quoi.
L'exemple des ransomware est très très bon parce que...
Mais oui,
c'est mon côté gendarmerie, on aura des besoins un petit peu plus souvent de notre réserve opérationnelle cyber et ça permettra de tester en grandeur réelle là où les scénarios plus défense seront plus rares et relèveront plus de l'exercice.
Je vois plus quand même des actions en termes de sensibilisation.
Exactement, mais oui.
Je sais pas, on verra justement quelle doctrine on développe pour ça. Hein. C'est pas certain que ce soit la mission principale quand même.
Et il y a quand même de grosses lacunes en termes de sensibilisation, donc c'est là où aussi il y aura besoin d'un effet de masse.
Mais cet effet de masse, tu vas pas envoyer quelqu'un, tu vas pas faire de la sensibilisation one-to-one.
Bah, tu vas faire de la sensibilisation dans les entreprises, par exemple.
D'accord, mais c'est déjà ce que fait la DCRI. Elle passe dans les établissements sensibles.
Et combien sont la DCRI sérieusement.
Mais il n'y a pas que les entreprises sensibles. Il y a aussi beaucoup d'entreprises, par exemple, qui, à coup de CryptoLocker, ne vont pas se relever parce qu'elles auront perdu leurs données.
Oui, mais si tu prends d'autres exemples, par exemple la sécurité incendie, il y a plein d'entreprises qui ne se relèvent pas après un incendie. Et la loi t'oblige pourtant à avoir des détecteurs, des extincteurs en état de marche, etc.
Et donc, si jamais tu élèves le niveau de sécurité et d'incendie des gens, bah, tu peux te dire que tu as joué un rôle important. Voilà.
Et puis, le risque de l'incendie est un risque un peu plus vieux.
C'est un risque que les gens comprennent parce que c'est pas du numérique. Les gens ne comprennent rien.
Et donc, justement, voilà, sur le numérique, il y a vraiment besoin de les sensibiliser, de leur faire comprendre. quelles sont les problématiques,
oui, oui, mais
pourquoi ils sont exposés.
Je suis entièrement d'accord avec toi et avec tout le monde que l'illettrisme numérique est affligeant. Maintenant, je ne vois pas comment tu peux sensibiliser des gens en one-to-one. Enfin, je veux dire, il y a 60
non, mais dans les entreprises, tu peux par exemple envoyer des réservistes dans chaque entreprise et faire en sorte de faire un learn and lunch, je ne sais pas, enfin, tu vois, faire une conf dans chaque entreprise pour dire voilà.
C'est ce que fait la DCRI sur les entreprises sensibles de grande taille, mais tu ne vas pas aller voir les 2 millions d'artisans français.
C'est la masse. Vraiment, essaye de comprendre ce principe, c'est la masse. Qui
a... Juste pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ils ont aussi monté une réserve cyber opérationnelle au Royaume-Uni en 2013, qui a recruté dès le mois d'octobre 2013. On peut peut-être jeter un coup d'œil à la façon dont ils ont travaillé aussi.
Et justement, alors qu'est-ce qu'ils font, comment...
Alors, ce qui nous présente du projet à l'origine, c'était vraiment sur les menaces de nature importante, hein, du spectre vraiment de la cyberdéfense, et donc de renforcer leurs unités cyber, plus précisément. Et le recrutement, d'avoir des compétences cyber avérées, d'avoir plus de 18 ans, d'être un citoyen du Royaume-Uni ou du Commonwealth, d'avoir vécu au moins 5 ans au Royaume-Uni, d'être capable de suivre de s'engager à suivre une formation chaque année, passer les vérifications de sécurité, hein, et puis donner 200 temps libres et de ses week-ends pour cela. En France, quand on est dans la réserve opérationnelle, l'employeur doit libérer les personnels pendant un certain nombre de dizaines de jours par an. Donc il y a aussi ça qui est encore plus favorable en France.
D'accord.
On peut parler l'annonce de notre président il y a quelques temps, justement, du développement de la réserve citoyenne, il n'a pas du tout opérationnel, dans les écoles, en disant on va prendre des retraités.
De l'éducation, oui.
De l'éducation, tout à fait. Qui vont participer au fait de sensibilisation et de transfert de compétences et de partage d'informations. Enfin, voilà, c'est le partage d'informations qui est pour moi essentiel.
Mais là, Jérôme, justement, sur la réserve citoyenne, 160 personnes pour faire de la sensibilisation dans les écoles, je trouve que c'est peu.
Mais non, ça sera beaucoup plus, puisque là, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui va monter une réserve civile citoyenne. Donc, je ne sais pas, je suppose qu'ils sont sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers à terme.
D'accord. Donc, pour conclure, le sujet cyber-réserve.
Alors moi, je paye pour voir, mais je pense que transposer des métaphores du monde réel dans le monde numérique, ça ne marche pas toujours bien.
Alors, ce n'est pas des métaphores, hein, c'est du concret, c'est des vrais gens. C'est comme quand on parle du virtuel, j'ai horreur de ça. C'est très concret, il y a des choses à faire et le pays a besoin de ton aide.
Oui, mais on va pas dire dans le numérique combien de divisions. C'est pas la masse qui fait la force.
Mais non, justement.
Et bien, sur la partie opérationnelle, justement, c'est la masse qui fait la force. Et pour moi, il est important justement de pouvoir disposer de gens qui vont être capables de pouvoir répondre à un événement de sécurité informatique majeur.
Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!
Bye bye!